C'est sujet sensible ?
Ouais. Voilà.
T'as coupé les points avec ta famille ou il y a un truc
Non, c'est sujet particulier. Okay. C'est bien, on commence fort. On a starifié le métier de cuisinier, de pâtissier. Est-ce que vraiment ça en valait la peine de nous positionner comme ça ? Je me pose la question.
Dans ce nouveau numéro du Foodcast, les amis, j'ai l'honneur de recevoir un des pâtissiers les plus talentueux de sa génération. Yann Couvreur est avec moi aujourd'hui. Ça va, Yann ?
Salut Alexis, ça va ? Merci.
Bienvenue.
Merci pour ton accueil.
Bienvenue dans mon petit studio.
Ouais, très sympa.
J'ai lu que tu détestais parler de toi.
Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que tu sens que mon faciès est très fermé.
Ouais, ça va être
dur
là.
Je sais que ça... pas mon exercice favori, c'est vrai.
Détends-toi, tout va bien se passer. Avant de commencer, j'aimerais qu'on mette au clair une question. Mm. Tu es breton ou tu es parisien ?
Bah, je suis un peu des deux parce que mon père était d'origine bretonne. Et dans la génération avant, ma grand-mère aussi. Mais moi, je suis né à Paris.
Et tu retournes parfois en Bretagne ou pas du tout ?
Oui, alors pas ces derniers temps. Mais j'y vais, ouais. Ouais, je suis plutôt originaire du Finistère, vers Pont-Aven.
D'accord. Et ouais. né à Pigalle.
Né à Pigalle, tu peux
un
pas
vrai
faire plus
titi parisien.
Ouais, c'est clair.
Ah, c'est beau, clair. Ça. Ouais. Est-ce que tu as des frères et sœurs ?
Ouais, alors j'ai un grand frère.
C'est sujet sensible ?
Ouais, voilà.
T'as coupé les points avec ta famille ou il y a un truc...
Non, c'est sujet particulier. Okay. Tu vois. C'est bien, on commence fort.
Ah bah...
on commence fort.
Parce que je voulais parler un peu de ton enfance.
Ouais, tu peux.
T'étais comment à l'école ?
À l'école, plutôt dissipé. Toujours envie de jouer. D'ailleurs, je retrouve à peu près les mêmes traits de caractère chez mon fils aîné. Ouais, je me revois pas tellement intéressé par les... Et encore, je le trouve plus curieux que moi. C'est-à-dire qu'il a vraiment envie de... Lui, tu vois, tout de suite, je reporte sur mon fils.
Ouais, c'est bien, c'est bien.
Je me rends compte que je reporte tout de suite sur quelqu'un d'autre. Ouais, lui, il est beaucoup plus curieux et a envie d'apprendre, mais il est quand même assez passionné par le jeu et pas tellement par ce que dit la maîtresse.
Est-ce que toi, tu t'embêtais ?
Non, mais j'ai toujours eu envie de m'amuser, moi. J'ai
okay.
toujours voulu tout transformer en amusement, en jeu, en... Voilà, ça a toujours été comme ça.
Et en revanche... T'étais quelqu'un qui lisait beaucoup ?
Non, alors j'ai grandi dans une librairie parce que mon père était libraire. Donc à l'époque, plutôt des BD. Alors les BD, je connais tout hein, par cœur, de Tintin, Astérix, Quick et Fluke.
C'est quoi la BD fétiche de Yann Couvreur ?
Non, moi j'adorais Quick et Fluke. C'est deux gamins qui faisaient des conneries. Voilà.
C'est ça.
Non, Quick et Fluke, c'était vraiment le truc, voilà, j'adorais. Mais après, toutes les BD, je lisais toute la journée les BD dans la librairie de mon père.
Et tu lisais pas des livres de cuisine ?
Pas du tout. Ah non, la cuisine, c'est venu vraiment, vraiment très tardivement et la passion encore plus tardivement.
Alors justement, la cuisine, c'est venu grâce, si je te dis, Monsieur Michel ?
Ouais, bien joué, bien joué. C'était en fait le boulanger pâtissier qui était en face de la librairie de mon papa. Mon papa démarrait très tôt le matin puisqu'il avait un côté rigoureux qui m'a d'ailleurs transmis. Et il ne supportait pas qu'un client qui rentre, le premier client qui rentre dans sa boutique le matin, n'ait pas une boutique parfaitement achalandée. Donc il arrivait très tôt pour qu'il range la presse, les livres, les livraisons, et qu'il ait le temps de prendre son petit café avec son pote d'en face.
Ah,
il arrivait, ah non, plutôt que ça.
Ah ouais,
ouais, c'était du 4 heures dans la boutique.
Waouh,
ouais,
ouais, c'était. Alors là, s'il ouais. y a des libraires qui se mettent ouais. à bosser à 4 heures du
c'est
mat.
C'est librairie papeterie presse, attention. Donc la presse.
Ouais, donc la presse, il fallait quand même s'asseoir le matin. Ok. Mmh. Ouais, ouais.
Et donc,
mais c'est un besoin, donc ton papa.
Ouais, 6 jours sur 7, 4 heures. Enfin voilà, c'était un gros bosseur et très rigoureux. Voilà. Et donc, et puis son plaisir le matin, c'était de prendre le café avec son pote boulanger qui a fini par me prendre en stage, puisque même ça, j'étais pas foutu de trouver mon stage en entreprise, donc il lui a dit bon allez prends mon fils.
Donc premier stage de boulangerie,
ouais.
Alors que finalement tu t'en foutais un peu quoi, enfin, c'était pas une passion.
Ah non, j'y étais, après j'étais quand même un peu gourmand, et puis ce qui m'intéressait quand même, parce que c'est, moi je faisais beaucoup de foot quand j'étais petit, ouais. Et c'était la boulangerie dans laquelle j'achetais mon gâteau avant d'aller à l'entraînement.
Okay.
Donc ça m'intéressait quand même de voir ce qui se passait, j'étais curieux, de voir ce qui se passait de l'envers du décor. Donc voilà, pendant une semaine, au lieu d'aller à l'école, puisque j'étais en stage.
C'était le fameux stage de troisième.
Ouais, exactement.
Okay.
Et donc j'ai fait des croissants, des beignets aux pommes, je me rappelle. Et j'ai même trié des chocolats, enfin j'ai fait plein de choses et ça s'est bien passé. Et pour une fois qu'on me faisait des compliments, il m'en fallait pas plus pour envisager une carrière. Quoi.
Ouais, de mettre le pied à l'étrier en quelque sorte.
Ouais, mais sans grande ambition vraiment, mmh. et sans passion. Vraiment,
parce que c'était quoi le rapport de votre famille à la pâtisserie ? C'est-à-dire que vous achetiez des gâteaux,
ma mère faisait. Non, ma mère faisait. Ma mère faisait la pâtisserie ménagère. D'ailleurs, je sors un livre sur la pâtisserie ménagère. J'en profite en tant qu'à faire.
Pour Noël, pour les fêtes, c'est ça?
Ouais.
Ok.
Ouais,
c'est quoi la pâtisserie ménagère? C'est le gâteau de maman?
Les gâteaux de partage, un peu cuisinés, surtout avec une accessibilité technique. J'entends par là. Je me suis interdit l'usage de la poche à douille dans le livre, par exemple. Tu vois, c'est vraiment. On a tout fait à la cuillère.
Vous avez acheté ce livre. Ouais. Ok.
Donc voilà, mais voilà, des recettes assez gourmandes. Ça s'appelle rustique, d'ailleurs. Et puis parce qu'il y a une DA assez travaillée sur la campagne qui m'a beaucoup inspiré pour ce livre.
Donc il y a Monsieur Michel, ce stage de troisième. Ouais. Ensuite tu recommences, enfin tu retournes sur les bancs.
Alors après, bon, il y a une anecdote assez drôle, c'est que il se trouve que je rate mon brevet des collèges, mais de très loin. Donc vous pouvez rater votre brevet des collèges, c'est pas la fin du monde, mais je le rate pas d'un point ou même pas d'un demi-point.
Allez, donne-nous ta note, je t'en supplie.
Non, je ne m'en rappelle même plus, mais elle est catastrophique.
Ok.
Mais je suis vraiment très très
loin. Pas le rattrapage, quoi.
Ah non, non, non. Ok. C'est, ok, on veut que vous partiez de l'établissement. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est vraiment que je fuis le plus loin possible du collège.
Donc tu pars sur un cursus pro.
Ouais, et donc je suis... Et malgré tout, malgré ces brillants résultats au brevet des collèges, j'arrive quand même à être pris par Ferrandi à Paris, donc l'école que tout le monde connaît la restauration, et également une autre école moins connue qui a par la suite été rachetée par Ferrandi qui s'appelle Técoma et qui est sur le site d'HEC, entre Jouy-Argeosas et Saclay.
D'accord.
Donc moi, j'ai le choix entre les deux. Alors je suis quand même chanceux par rapport à mes...
Ouais.
À mes résultats. Et il se trouve que je fais le choix de Técoma parce que c'est pas très accessible en transport en commun et je sais que je vais pouvoir avoir un scooter. Oh. Voilà, tu vois un peu l'état du. Tu vois le gars. tu vois le gars un
mais
peu.
Tu penses que si
la mentale.
Si tu avais fait Ferrandi, tu aurais eu une autre carrière?
Ah bah j'aurais rencontré d'autres personnes, j'aurais eu un autre maître d'apprentissage. Enfin, c'est tout un tas de. C'est un chemin. Hein.
Et à ce moment-là, c'était la pâtisserie ou c'était la cuisine?
C'est la cuisine. On n'a pas précisé, c'est un BEP CAP cuisine.
D'accord.
Voilà. Qui ensuite, au bout de deux ans, donne
spécialisation. Okay.
Voilà. Une spécialisation que je fais en pâtisserie, donc un an de pâtisserie intensive, les matières générales étant validées, on fait que de la pâtisserie,
et
toujours au même endroit.
Pourquoi t'as bifurqué, enfin pourquoi t'as choisi cette spé pâtisserie?
Moi je voulais être cuisinier en fait, je voulais être cuisinier mais en sachant faire les desserts, pas prêt à affronter le monde du travail encore, je voulais me faire une année encore à l'école en plus, je m'y sentais bien finalement dans ce CFA.
Ah ok.
Tu sais, quand tu vas en cours et que tu apprends à faire des gâteaux, il y a un côté ludique. Tu vois, quand je te dis que j'aime bien tout transformer en jeu, bah là encore, tu vas à l'école, mais
ouais, tu
apprends à faire des gâteaux, c'est amusant en fait. Moi j'ai toujours trouvé ça amusant. Mais pas passionnant, j'ai jamais été passionné, j'ai jamais. Enfin, c'est arrivé tard.
Et donc, la pâtisserie s'impose à cause de cette spé en troisième année. Et là, tu dis, bon, bah, c'est bon, c'est ma carrière, je veux faire ça. Je rebascule pas dans la cuisine?
Si, bien sûr.
Ah.
Une fois que j'ai mon diplôme de pâtisserie, là, en plus, je mets des diplômes dans ma besace, c'est fou hein, ce qui se passe.
C'est bien?
Ouais.
T'es fier?
Non.
Ok.
Pas spécialement le BEP, CAP, cuisine, pâtisserie, c'est... C'est encore pire que le brevet des collèges.
Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu tenais une petite pression par rapport à tes enfants pour qu'ils suivent un cursus scolaire
Je suis un exemple, entre guillemets,
De réussite sans avoir...
En tout cas, d'avoir réussi à embrasser une carrière sans avoir de diplôme particulier et en étant promis au pire. Maintenant, j'ai l'impression que je suis un rescapé, quoi. Ouais. C'est-à-dire que j'encourage personne à faire ça parce que en fait, on s'en remet au bout d'un moment aux rencontres, à la chance. Au bout d'un moment, le plomb est rentré. Enfin, j'ai commencé à avoir du plomb dans la tête et à me dire, bon, ok, Yann, il va falloir que tu saisisses un peu ta vie, quoi. Mais en fait, j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup de chance, que j'ai fait les bonnes rencontres. Ça aurait pu se passer autrement plein de fois. Et je crois que si on travaille à l'école quand même, malgré je fais un discours assez classique, mais je crois
que
si on travaille mieux à l'école, qu'on a de bons résultats, qu'on en fréquente des bonnes personnes et qu'on obtient les bons résultats, je crois qu'on a quand même plus de chances de réussir.
Et donc après cette formation, tu repars sur un cursus un peu cuisine, en tout cas.
Ouais, je postule en fait au Trianon Palace à Versailles.
Ouais. Donc là, c'est quoi? T'es apprenti? T'es...
Non, j'ai fini mon apprentissage. Okay. Je vais vraiment... je me lance dans le monde du travail en tant que cuisinier. Donc je suis pris en tant que cuisinier et je fais même pas un jour en cuisine. Le gars me dit, mais en fait, j'ai vu ton CV, en fait, t'as un diplôme de pâtisserie. Il y a personne en pâtisserie. Tiens, descends. Voilà. Et je suis jamais ressorti.
Fin
de ma carrière de cuisinier. Elle a duré 2 minutes.
La plus courte de l'histoire.
Ouais,
on sait quand même que l'apprentissage, les débuts en cuisine, en tout cas il y a un certain temps, c'était costaud. Parfois les maîtres d'apprentissage étaient durs, il y avait un management un peu à l'ancienne. Est-ce que c'est aussi le cas en pâtisserie ou est-ce que c'est un monde à part un peu plus doux?
J'essaye de me remémorer un petit peu.
Toi, t'as vécu des moments, par exemple, d'humiliation, de supérieurs qui te hurlent dessus?
Plutôt en cuisine, c'est vrai. Mais je sais pas si on peut en faire une généralité, mais je sais pas, ça doit être la chaleur du fourneau, je sais pas, ça tape un peu plus. Mais j'ai croisé aussi des tarés dans la pâtisserie. Hein. Je pense pas qu'on puisse faire de généralité, mais statistiquement, en tout cas dans mon parcours à moi, j'ai vu les plus gros sanguins étaient en cuisine, en pâtisserie. Déjà, la cuisine, moi, quand je démarre, c'est vraiment un monde quasiment exclusivement masculin, alors que la pâtisserie est déjà beaucoup plus mixée.
Ouais.
Et quoi qu'on en dise, les femmes apportent leur douceur, elles apportent quelque chose de très... Et puis après, les conversations sont un peu plus, on va dire, tu vois. J'arrive pas à dire les mots.
mais je comprends, je crois qu'on a tous compris ce que tu voulais dire.
C'est moins un boys club, quoi.
J'en viens à ton parcours, Yann. Tu débutes donc dans pas mal de belles maisons, des palaces, des grands restaurants, etc.
Exclusivement.
Pourquoi t'as voulu faire ce choix d'aller vers ce type d'établissement un peu prestigieux, un peu haut de gamme?
J'ai toujours aimé les belles choses. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Et je savais quand même que j'étais pas un no-life non plus. Et je savais qu'en apprenant mon métier avec les meilleurs, je serais plus performant. J'apprendrais mieux. Je toucherais des produits qu'on touche rarement. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à forger ma passion. Au fur et à mesure et au contact de gens passionnants. Et tous ces chefs qui m'ont transmis leur savoir-faire, en fait, font aujourd'hui le chef que je suis devenu. Mais tu vois, quand on ouvre la pâtisserie en 2016, on a un cahier des charges créatif que je me fixe, mais qui est un cahier des charges qui paraît presque très singulier pour un pâtissier, mais qui n'est ni plus ni moins qu'un cahier des charges créatif de cuisinier. C'est-à-dire que les pâtissiers qui, à l'époque, quand j'ouvre, c'est pop, c'est toutes les couleurs dans tous les sens. Moi, je prône le naturel, la saisonnalité et tout ce que les cuisiniers en fait m'ont transmis dès le départ.
Tu te souviens durant ces années-là, de la première vraie grosse claque culinaire que tu t'es pris?
Moi, j'étais passionné du guide Michelin et je voulais faire tous les restaurants triplement étoilés de France.
Voilà, tu les as fait?
Non.
Et pourtant, il n'y en a pas non plus.
Enfin, un budget quand même.
Ah oui.
Ouais.
Oh, tu l'as maintenant?
Il y en a une trentaine. Ouais. peut-être un peu plus, mais j'ai des enfants. Le pouvoir d'achat baisse. Non, ma première grande claque culinaire, c'est Emmanuel Renaud à Megève. J'ai un souvenir que j'oublierai jamais. Alors, on est devenu amis avec le temps et c'est pas du tout pour ça que je dis ça. Mais à l'époque, on n'est pas amis. Je le connais à peine puisque je rentre dans ce restaurant. C'est la première fois que j'y vais. Je l'ai fait une dizaine de fois depuis.
Wow.
Mais ouais, c'est mon restaurant préféré. La première fois, j'y vais avec une table de potes. On est quatre cuisiniers. Je suis le seul pâtissier, donc trois cuisiniers, un pâtissier. Et on se fait cette table de potes et on prend tous la claque. Parce qu'il y a un environnement. En fait, la table, il n'y a pas que l'assiette. Et moi, je le comprends vraiment à ce moment-là parce que la table, c'est une expérience et il n'y a pas que l'assiette. Et c'est là aussi que tu t'ouvres à tout ce qui se passe autour de l'assiette pour créer la meilleure expérience possible. Et donc, ça va se jouer avec tous les acteurs du repas, hein, du sommelier, le maître d'hôtel, n'importe quel chef de rang qui vient présenter un plat. Il y a quelque chose, un truc que je connaissais
la
pas.
La vaisselle aussi.
Les détails, en fait. C'est que des détails, une somme de détails qui font qu'à la fin, tu passes une expérience extraordinaire. Et là, moi, j'ai un déclic, là. J'ai un vrai déclic. Je pense que je faisais déjà bien mon travail, mais là, j'ai ouvert de nouvelles possibilités dans mon cerveau, des options créatives que je découvre Et voilà. Et après, c'est là que ça devient presque maladif, c'est que j'ai besoin d'aller voir ce que font les autres grands restaurants de France, les 3 étoiles. J'ai besoin de comprendre pourquoi eux ont 3 étoiles, pourquoi eux ils en ont qu'une, pourquoi eux ils en ont 2. Et j'ai besoin en fait de comprendre toute la graduation. Et voilà. Et après, à force de voir, on s'inspire. Je dis pas qu'on copie, je dis vraiment qu'on s'inspire, on comprend. Et voilà. Mais en fait, ouais, j'imaginais pas qu'on pouvait faire ça. En fait.
Ouais, je comprends.
Ta créativité, elle sort de l'assiette, elle s'étend au-delà.
Donc ça, c'était les années Palace, grand
restaurant,
etc. Ouais,
c'était les années Palace, c'est ça.
Palace, c'est aussi des clients. Ouais. C'est qui les clients les plus connus que tu as servis ?
Quand je travaillais au Parc Hayat, je me souviens que nous, les desserts, on l'envoyait quasiment sur la table du chef qui était ouverte. C'est une cuisine ouverte, le Parc Hayat, ouais. Le restaurant le pur. Et je me souviens que on avait toutes les stars qui descendaient là-bas parce que c'était un palace hyper moderne. Je me souviens, il y avait Leonardo DiCaprio.
Ouais.
Il y avait un soir, on avait Roger Federer aussi, j'ai bien aimé. Ah. En plus, non, mais ce qui était sympa là-bas, j'ai eu la chance de servir plein de célébrités, ouais. Sportives du monde du cinéma, français ou même américain. Mais au pur, ce que j'adorais, c'est qu'en fait, on avait un échange parce qu'on travaillait devant eux.
Ouais.
Et ils étaient à l'aise de s'adresser à nous et de discuter. Et alors là, c'est incroyable parce qu'on crée vraiment un échange avec des gens qu'on ne pensait pas un prochain jour.
Ouais, que t'admires.
Et voilà. Donc ça, c'était...
Alors, à l'inverse, est-ce que t'as des
clients... Britney Spears aussi, c'était à l'époque. Ouais.
Pas mal. Et à l'inverse, t'as des souvenirs de clients vraiment odieux parce que les palaces, il y a aussi des exigences.
Moi, avec ma fonction, je suis pas en.
Ouais, t'es pas en contact direct.
Voilà. Et puis.
Mais peut-être parfois des demandes improbables, je sais pas moi.
Au début des années 2010, c'est l'arrivée de tous ces régimes incompréhensibles.
Oula.
Qui.
Ouais, attention, tu vas te mettre des gens à dos.
Non, mais en 2010, tu vois, on n'est pas encore dans le sans gluten.
Ah, tu parles pas de ça. Okay.
Non, non, t'as des régimes spécifiques avec des allergies improbables.
Ouais, ouais,
c'est nouveau pour nous et nous, on doit réagir et être à la hauteur.
Parfois, tu prenais un peu les gens pour des fous, quoi.
Je me souviens que Joko, par exemple, son régime alimentaire, il nous tuait, quoi. Et je comprenais pas. En fait, j'avais pas le recul.
Ouais, bien sûr.
Lui, il était déjà dans le futur. Il savait que la longévité de carrière, peut-être que c'est lui aussi à son alimentation.
Et tout
prouve que lui avait raison et que moi, j'étais juste un pâtissier stupide qui comprenait rien.
T'as aussi bossé avec Stéphanie Lekelec.
Tout à fait.
À la scène.
Ouais.
C'était comment de bosser avec Stéphanie ?
C'était très enrichissant. Stéphanie, elle a une main cuisinière hors pair. J'ai beaucoup appris avec elle. On a eu des hauts, des bas, évidemment, parce que on a chacun notre ego. Et deux égos dans le même bassin, parfois, ça fait quelques frictions.
Ouais. C'est dur de gérer les égos dans ce milieu.
Pourquoi aussi les égos ressortent comme ça ? C'est aussi parce qu'on a été certainement mis trop en avant, trop exposé. On a starifié le métier de cuisinier, de pâtissier. Est-ce que vraiment ça en valait la peine de nous positionner comme ça ? Je me pose la question. On fait un métier finalement qui est assez léger. Je me suis toujours intérieurement, j'ai trouvé qu'on était pas forcément à notre place en haut de l'affiche. Voilà. C'est bien d'avoir un peu de reconnaissance. Peut-être qu'on est rentré dans une reconnaissance excessive aujourd'hui. Moi, j'ai pas le sentiment d'être un héros. Je trouve que parfois, je rencontre des gens qui me disent « mais je suis fan de vous ». J'ai un peu de malaise par rapport à ça parce que je comprends pas qu'on puisse. Je veux le redire et je fais pas le faux humble en disant ça. On fait que des gâteaux,
ouais.
Comme plein de gens. Et en plus, je suis persuadé que j'ai eu de la chance d'avoir une médiatisation, mais d'autres dans l'ombre. Les font mieux que moi, mais on n'entend jamais parler. Donc je me suis c'est aussi rapport à mon syndrome de l'imposteur. On en a parlé tout à l'heure, je sais, mais je me suis toujours senti pas à ma place. Alors quand on me dit je suis fan de vous, moi c'est ça y est. Oula.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Mais en plus, alors j'essaye d'être sympa, mais moi en fait quand on me dit ça, distance directe. Oula, distance de sécurité.
Après,
je suis pas bien.
Si les gens considèrent que tu leur apportes du bonheur.
Ouais, mais d'accord.
Toi,
mais...
Tu te sens pas à l'aise en fait avec.
Ouais, je comprends pas trop ça. Ouais. Ce concept, honnêtement, j'ai du mal à le comprendre. Je l'accepte, je joue le jeu. C'est nécessaire pour plein de choses. L'entreprise, elle a aussi grandi grâce à ce game-là. Mais au fond, je m'en étonne encore tous les jours.
après, c'est plutôt sain de ta part de pas. Enfin, je veux dire, tu gardes des pieds sur terre. Et,
ah ouais, voilà. Complètement. Je me prends pas pour un autre, ça c'est sûr.
Ouais. Puis il y a plein de gens, au contraire, qui sont à la recherche de cette
notoriété.
Fame, de cette notoriété, qui rêveraient d'être connus dans la rue. Mmh. Ça, c'est plutôt quelque chose qui te fait peur, en fait. Ou qui, pas qui te fait peur, mais que tu considères être.
C'est pas de la peur. Moi, je trouve toujours. Ça va peut-être sembler paradoxal, mais si on m'arrête dans la rue, et c'est rare. Hein. D'ailleurs, j'ai volontairement mis plutôt un renard en ouais. apparence plus que moi. Mm-hmm. Déjà que la marque porte mon nom et mon prénom. Ça me va bien de mettre le renard en avant. Mais en vrai, si vous m'arrêtez dans la rue et vous me dites « Ah, je vous ai reconnu, machin », ça va me flatter parce que je me dis « Je fais bien mon travail ». Mais c'est pas une histoire de...
Non, mais c'est le « je suis fan de vous » qui te gêne,
ouais,
en fait.
Ouais, moi, je suis fan de football, j'adore le Paris Saint-Germain, c'est, tout le monde le sait.
Ouais.
Je suis au parc tout le temps, j'adore le foot depuis que je suis tout petit. Et ça, je trouve que c'est normal, tu vois, qu'on puisse être fan d'une équipe de foot et trucs, alors que finalement, si tu regardes, bon,
Est-ce que j'allais te demander qui, à tes yeux, mérite d'être adulé ou en tout
un
cas...
Un chanteur, un acteur, un footballeur, je peux comprendre.
Toi, tu te considères pas comme un artiste ?
Un artisan.
Bon, je te propose, c'est qu'on avance un peu dans cette carrière parce qu'elle est longue. Il y a beaucoup de choses à dire.
Tu trouves ?
Tu quittes les palaces.
Je vieillis pas trop, quand même.
Non, mais j'aimerais qu'on parle de la vie d'entrepreneur. Ouais. D'entrepreneur.
Volontiers.
Ton aventure avec la construction de ton empire, puisque maintenant il est sur plusieurs continents.
C'est vrai. C'est vrai.
Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter l'univers des palaces et à te lancer dans l'entrepreneuriat ?
On en discutait un peu plus tôt. Je te disais que pour moi, tu plafonnais vite dans la pâtisserie d'hôtel et je ne voyais pas en fait de futur là-dedans.
Ouais, ouais.
Je me disais, bon, bah voilà, maintenant je suis chef pâtissier, ça fait 5 ans. J'ai fait 3-4 bels hôtels, beaux hôtels.
Ouais, beau.
Et
il vient de me dire qu'il parlait bien français.
Ouais, et tu vois, je me suis quand même repris. Je me suis quand même repris, tu vois. 3-4 beaux hôtels. Et je ne voyais pas, en fait, de progression L'évolution, derrière. Ouais. Ça allait changer d'hôtel, ok, et après. Donc, j'ai eu une opportunité de créer une marque de pâtisserie. Enfin, je dis de marque, mais en fait, à la base, j'ai juste l'opportunité de créer une pâtisserie, quoi. La marque, c'est quelque chose qui vient après.
Boutique.
Ouais. Et ça démarre comme ça, et on connaît un certain succès. Mm-hmm. Un succès aussi lié à l'utopie de notre projet. C'est-à-dire que moi, je voulais des pâtissiers qui finissent les desserts devant les clients. Je voulais que ce soit complètement...
Dessert minute.
Ouais, complètement singulier. Ouais, et puis même que on finisse les desserts qui vont en vitrine devant, sur le comptoir, et que ce soit un joyeux bordel. Et j'avais ce côté un peu très vivant.
C'est toujours le cas, ça, ou pas ?
Non.
Ouais, c'est fini.
Non, bah oui, c'est pour ça que je t'ai dit utopiste. Mais par contre, c'est ce qui nous a positionnés. Au départ, on était un ovni. On mettait des playlists complètement incroyables. On s'est installé en bas de Belleville. J'étais le seul pâtissier qui venait des quartiers un peu... enfin, des hôtels de luxe qui s'installent dans un quartier populaire. Ouais. C'était complètement inenvisageable. À l'époque, j'étais vraiment le premier, quoi. En 2016, je m'installe vraiment dans un quartier où on ne s'attend pas à me voir là. Et puis du coup, la mayonnaise prend bien. Puis après, il y a une autoroute du développement qui s'est faite presque naturellement derrière. Et voilà, et puis après, mettre des pâtissiers dans toutes les boutiques, ça devient ingérable, parce qu'on ne contrôle plus en fait la qualité, et moi, c'était mon obsession. Donc on a rassemblé tous les pâtissiers dans notre laboratoire central au bois de Vincennes, et voilà, on commence à redevenir une pâtisserie de plus en plus classique, parce qu'on est rattrapé aussi par notre masse salariale, par tous les sujets.
Combien de salariés aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on est un peu plus d'une centaine.
Waouh !
Ouais.
Bon, après, t'as beaucoup de boutiques, t'es sur plusieurs continents, on va en reparler dans un instant. Avant ça, j'ai un petit test à te faire.
Oula.
On va voir si tu connais bien tes pâtisseries. C'est l'heure, je sais pas comment on va appeler cette séquence.
On met l'invité dans la merde. Eh oh, c'est pas très gentil de me biper là.
J'aime beaucoup le nom de cette séquence. Je mets l'invité dans la merde. Alors c'est simple, hein. Je t'explique.
Ouais.
Yann, tu as devant toi... 2 Paris-Brest.
Ok.
Il y a le tien.
Ouais.
Et il y a celui d'une autre pâtisserie.
Et je dois deviner l'autre pâtisserie ?
Bah, tu dois deviner quel est le tien. Je vais te faire goûter.
C'est facile.
Ah, bah, on va voir. On va voir si tu arrives à reconnaître son Paris-Brest.
Je les goûte tous les jours, mes gâteaux. Je suis sûr que je vais retrouver.
Tu vas nous dire ce que t'en penses aussi, tant qu'il y est.
Bah, je peux te dire, c'est pas le mien déjà. Donc, c'est une version très simpliste du Paris-Brest. Le mien est full noisette. Celui-là, il contient peut-être de l'amande.
Ah, mais c'est une dinguerie, hein, celui-là. Hein.
Ouais. Et l'amende.
T'en veux ou tu connais ?
Non, non, vas-y, fais-toi plaisir. C'est bon.
Merci.
Je connais, oui.
On va parler des prix de couvreur tout à l'heure également. Il y a une question d'un abonné.
C'est là, en fait, que je suis dans la merde. Non, je plaisante, je plaisante.
Allez,
franchement,
deuxième test.
Je suis à l'aise avec ça.
Je fous mon invité dans la merde. Allez, deuxième produit pour ton blind test, Yann. Et cette fois-ci, je te propose de le faire d'abord à l'odeur. Il s'agit d'un flan vanille.
Ah, bah c'est le mien, ça, c'est sûr.
Pourquoi
je reconnais l'odeur. C'est le mien.
C'est un malade mental, ce mec.
Non, mais...
c'est un ouf. Bah, attends, j'hallucine.
Mais non, mais 100%.
C'est
mais...
impossible. Et puis, il n'y a pas eu une seconde d'hésitation. Mais non, mais c'est un terrain, tiens. Enlève-moi ça. Hop.
Mais oui, mais tu me... Enfin, c'est tout...
Mais comment tu fais ?
Mais tous les jours, je suis avec.
Enfin, je suis d'accord, mais à l'odeur, il n'a même pas goûté.
Mais non, mais
c'est incroyable,
je connais. Ouais, bien sûr. Mais sens, tu vas voir, c'est très...
Ah, mais j'ai senti, hein.
C'est très singulier, quand même. Cette recette-là, elle est dans mon livre 12 saisons, vous pouvez voir là.
Ah, il a compris le truc.
et du coup, c'est la vraie recette. Mais par contre, il y a une rigueur à tenir, il y a un process. Moi, tu sais, tous les jours, sans exception, je reçois les vidéos de toutes les vitrines à Paris.
Ah ouais ?
Ouais, je contrôle comme ça.
Et
je
un peu contrôle fric, hein.
Non, c'est juste de savoir si les produits sont sortis.
C'est bien, c'est bien.
Ouais, c'est bon. Moi, tu sais, je te dis, je déteste perdre le contrôle. C'est quelque chose qui... Ouais.
J'en reviens, t'es un peu contrôle fric, quoi. Ouais. T'as vraiment besoin d'avoir...
Oui, mais c'est... ouais, pardon.
Parce que... Tu m'aurais dit, je demande régulièrement à ce qu'on m'envoie les... Mais là, c'est tous les jours, tu as toutes tes boutiques.
Ouais, mais parce que c'est du process, tout simplement.
Ouais, ouais. Ah oui, voilà. Okay.
Je reçois et puis je dis, ah, attention.
Là, il y a un truc qui
va. La merveille, là, il y a un peu de.
Après, c'est ton nom.
Décalé sur la droite.
C'est ton nom qui est sur les, qui est sur les devantures. Enfin, voilà, je comprends.
Si un jour, personne ne m'appelle, je suis stressé. Pourquoi il m'appelle pas ? C'est pas possible que tout se passe bien.
Mais ça veut dire
forcément. Donc c'est moi qui appelle. T'es sûr ?
T'as jamais un jour off, 100% off du coup ?
Où je. Ben,
genre vraiment où
il n'y a pas le téléphone ?
Ouais.
Non. Tu sais, c'est de la quotidienneté. T'es le flan tous les jours, il sort du four. Tous les jours, les croissants, ils sortent du four.
En fait, tu pourrais dire le dimanche,
Il faudrait que je ferme.
Complètement.
Alors oui, et encore, je te dis, on ferme deux jours dans l'année. On ferme le 25 décembre parce que je considère que. Tous les employés doivent passer Noël en famille.
Ouais.
Et le 1er janvier, parce que je considère que personne ne va réussir à se lever pour ramasser.
C'est ce que j'allais dire.
Donc voilà, il y a deux jours dans l'année où on ne travaille pas chez nous,
ouais,
donc que tout le monde est off.
Non, mais
ces deux jours-là, je sais que comme on enchaîne, tu vois, par exemple, le 1er janvier, je suis stressé parce que je sais que en fin de journée, il y a les touriers qui commencent les galettes parce que les galettes enchaînent. Et je suis stressé le 1er janvier parce que c'est bon, vous avez commencé, ouais, ok, ça va, tout se passe bien, tout a fonctionné.
Ouais, je comprends.
Et c'est une logistique tous les jours, c'est une feuille blanche que tu réécris.
Ta casquette préférée, c'est le pâtissier créateur, c'est le chef d'entreprise, entrepreneur.
Non, créateur. Ouais. Tu sais, déjà, je ne porte pas la YC tout seul parce que j'ai des associés qui ont chacun des skills que je n'ai pas. Et sans eux, je pense que ça serait pas du tout ça, en fait. C'est eux qui ont porté le développement. Moi, aujourd'hui, je me concentre sur les produits, l'équipe, le management, l'incarnation de marque, évidemment.
En parlant de produits, d'incarnation de marque, comment tu décrirais ta pâtisserie, ton style ?
Néoclassique. Je dis souvent ça, c'est, voilà, je te l'ai pondu, c'est tout le truc.
Okay.
Cette pâtisserie, elle est issue de base classique, et en même temps, je trouve qu'elle est un peu modernisée. Donc voilà, j'aime bien, je trouve que néoclassique, ça me correspond bien.
Le renard, parlons-en maintenant une bonne fois pour toutes, même si je pense que tu as déjà expliqué 20 000 fois.
Si seulement c'était une bonne fois pour toutes.
Cette origine. alors rapidement, parce
une
que.
Une fois de plus.
Voilà, une fois de plus. Ça vient d'où le renard ? Pourquoi le renard ?
Il incarne la marque plus que moi d'ailleurs, parce que souvent on connaît plus le renard que mon faciès, et ce qui me va d'ailleurs très bien. Bah, le renard, il est roux. Donc moi j'ai la barbe rousse un peu. Donc pas les cheveux, mais la barbe.
Et les cheveux sont de quelle couleur d'ailleurs ?
Ouf, là, ça commence à partir.
Ah ouais.
Ils étaient blonds, ils étaient châtain foncé, on va dire, ou blond foncé, on va dire.
Ils ont eu toute une vie en fait. Hein.
Non, ils ont toujours été blonds, blond foncé, et là, ils commencent à blanchir un peu.
Ok.
Voilà. On va pas.
On va pas. Pas
tourner
on va
autour
pas
du pot. On va pas
le couteau dans la plaie.
Voilà. Non, non, ça va. En plus, ma femme me dit que ça me va bien, donc tout va bien. Donc je paie à ma femme. Puis il a une place forte aussi dans la littérature, le renard, et je trouvais que ça faisait un clin d'œil sympa avec mon papa libraire,
ah, oui.
Mes parents libraires. Okay. Voilà, et je trouve que voilà, c'est. Et puis c'est un animal que tout le monde connaît, qui est à la fois rural, urbain, et c'est un peu moi. Ça. Oui, c'est vrai que je m'identifie à lui et que je me retrouve un petit peu à travers lui.
Alors justement, il est sur tous les packaging Yann Couvreur qu'on peut voir un petit peu dans le décor. Il y en a notamment un qui est posé là sur la table qui est juste à côté. C'est un sac que tu nous as apporté. Alors est-ce qu'on peut découvrir ce que tu nous as apporté?
Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que je t'ai apporté?
Alors, oh là là,
des pralinés.
Oh non, pas ça. Je suis au régime, Yann.
Ça va, il y a toute une équipe à nourrir ici.
Ah oh non, certainement pas.
Des guimauves à la vanille.
Oh non.
Enrobé de chocolat au lait.
Pas possible.
Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, il y a des petits financiers.
Oh là là, l'enfer.
Je vois qu'ici, il y a des tablettes. Et là, t'as
Ah oui.
Praliné rissoufflé.
Oh là là, regardez-moi cette
beauté. Tout a une forme de renard chez nous, c'est vrai. Et là, t'as la petite dernière qui n'est pas sortie encore. C'est une tablette chocolat noir.
Sésame noir.
Et sésame noir.
Ah, c'est pas mal ça.
Ouais, et tu me diras ce que t'en as pensé. C'est un praliné sésame noir à l'intérieur.
Chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blond.
Blond, ouais, les quatre couleurs.
Bon, bah merci beaucoup.
Bah, avec plaisir, j'allais pas arriver les mains vides quand même.
Ça fait super plaisir.
Mais en fait, j'ai remarqué aussi que quand je viens les mains vides, les gens. Ah, bah ok. Tu vois, on s'attend toujours à ce que je ramène quelque chose, donc du coup j'aime pas décevoir, donc je viens toujours avec un petit truc maintenant, bon. Le plus possible, en tout cas quand je peux.
Quelqu'un qui n'est jamais venu dans une de tes pâtisseries, mmh, débarque dans une de tes boutiques, quelle est la pâtisserie qu'il doit acheter?
Celle qui nous représente le mieux aujourd'hui et qui est là depuis l'ouverture, je pense tout de suite quand tu me dis ça, à la merveille, parce que c'est un dessert qui
porte bien son nom. Et donc
ben, c'est pas moi qui lui ai donné, hein. Tu sais, c'est la merveille, le merveilleux, ouais. Il a deux noms.
Ah, donc c'est une sorte de meringue avec de la crème.
Exactement.
Okay.
Voilà. Nous, on l'a un peu retravaillé à notre sauce, on l'a modernisé, peut-être.
Et c'est quoi la meilleure vente de tes boutiques?
C'est celle-là. C'est celle-là, lissée sur l'année, c'est celle-là.
Au-dessus des viennoiseries?
Ah non, c'est le croissant, bien sûr.
Ah oui.
Okay. Oui, croissant, pain au chocolat, en tête.
Ça t'arrive de sortir un gâteau qui se vend pas du tout, qui ne trouve pas son public?
Ben oui, bien sûr. En fait, surtout au début, quand j'étais pâtissier de restaurant, finalement, j'imposais mes desserts. Souvent, dans un menu, tu choisis pas,
oui,
et
oui, bien sûr.
On t'impose un peu ton dessert.
Ouais.
Et je me permettais des coups d'audace qu'aujourd'hui, les gens saluent, mais restent quand même sur le chocolat, la noisette, la vanille.
Ouais,
Tu as donné clients,
c'est original.
Bravo, hein. Mais bon, je vais quand même prendre l'éclair avec.
Donc, c'est frustrant, ça. Comment tu gères ça aussi, cette partie réseaux sociaux et les critiques que ça peut aussi apporter? On en parlait justement avant l'enregistrement. Mm. Les gens aujourd'hui, ils sont sans filtre, quoi.
Ouais, bah les réseaux sociaux, en fait, ils te donnent une proximité avec les gens. Parce qu'ils peuvent t'atteindre directement. Et plus tu grandis, plus c'est normal que ce soit bien. Et en revanche, la tolérance, la jauge de tolérance, elle se réduit fortement avec la...
Ah, tu veux dire que les gens, vu que t'as un gros compte, attendent de toi que ce soit...
Mais pas qu'un gros compte, c'est l'image de la marque. Moi, je considère pas qu'en fait le nombre de followers correspond à l'image de marque. C'est vraiment décorrélé pour moi. Mais plus la marque est forte... Plus la jauge d'exigence est petite, quoi. Enfin, grande.
Et c'est quoi? C'est violent? Tu reçois des...
Ça dépend de la personnalité des gens. À chaque fois, il y en a qui vont mettre des formes et d'autres qui vont être ni bonjour ni rien. Et bam, je t'envoie une insulte.
Ouais.
Alors que bon, à la base, on fait quand même un métier qui suscite pas tellement la haine ou le mépris.
Ça, toi, tu le vis bien?
On a tous des hauts et des bas dans la vie. Donc moi, j'essaye de... Au départ, c'était insupportable pour moi.
Ah.
Voilà, il y a 10 ans, je n'acceptais pas.
Tu répondais?
Ouais, mais j'étais constructif, c'est-à-dire que j'assumais et j'arrive à peu près à déceler quand un reproche, une remarque ou un...
Constructif ou non?
Ouais, si on a merdé, je vais le voir tout de suite,
en fait.
Je comprends.
Ah oui, d'accord.
Et des fois, il y a aussi de la malhonnêteté, hein, parfois. Ouais. On le sent. Il y a des choses, ça se perçoit. Mais quand on a merdé, je m'en veux terriblement. J'en parle avec les équipes. Enfin, il y a beaucoup de remises en question. Mais oui, il ne faut pas croire. On marche aussi encore à l'amour de nos clients. Et parfois aussi, ça fait du bien de... Quand les gens nous font des compliments, j'essaie quand même de... je trouve pas ça, enfin c'est pas la normalité en fait, donc j'essaye toujours de répondre et de les remercier parce qu'on marche encore à ça, moi c'est un moteur encore.
Donc c'est toi qui réponds aux messages sur ton compte Instagram.
Ouais, Instagram, j'essaye de garder encore cette proximité, puis c'est ce qui me permet aussi voilà, d'être proche, d'avoir des... Et puis j'ai des clients que je n'ai jamais vus et avec qui je parle régulièrement, c'est assez drôle d'ailleurs. Des gens qui me disent « Ah, ce matin, on est passé...
» Qui te font des petits
retours. Et puis des fois aussi, j'ai des petites infos de ce qui se passe en boutique, parce que je ne peux pas passer. Donc, voilà, j'ai des spies dans les clients qui aiment bien me raconter leurs anecdotes, me dire « Ah, elle est top !» voilà. Bon, après, je fais évidemment, je prends...
Oui, tu ne vas pas virer quelqu'un suite à un message Insta.
Mais c'est vrai que parfois, j'engage des... J'engage des débats parfois sur ce que les clients disent et puis j'essaie de... Mais c'est intéressant. Donc c'est pour ça que je tiens moi à ces relations-là et que je garde Instagram personnellement.
Il y a des petites questions qui arrivent dans un instant. On a aussi les abonnés qui t'ont posé des questions, à qui j'ai demandé sur Instagram de te poser des questions.
Wow.
Mais avant, très rapidement, alors je sais que ça va faire un peu... Ça va être difficile pour toi qui n'aime pas parler de toi et de ta vie. Gabriel et Noé.
Ouais, mes fils.
Et tes deux enfants. Ouais. C'est les premiers cobayes de tes pâtisseries ?
Pas du tout. Alors eux, ils sont encore...
Ils ont quel âge ?
Alors Noé, il va avoir 6 ans là. Et Gabriel, il a 4 ans.
Et eux, ils sont encore...
Eux, ils sont encore victimes de l'industrialisation pâtissière. Donc,
aïe.
Souvent, ils préfèrent d'ailleurs un gâteau industriel au mien. Hein. C'est terrible.
C'est la vie.
Non, mais c'est de l'éducation. Il va falloir que je serre la vis. Non, mais après, ça dépend des produits. Ça dépend des produits. Les cakes, par exemple.
Ah,
les cakes, ils préfèrent quand même les miens.
Ta femme bosse avec toi ?
Ouais, c'est la DA. Donc, elle s'occupe de toute la partie photo, la partie... boutique aussi, aménagement, décoration, elle fait plein de choses. Et puis les shootings, les photos que vous voyez sur Insta.
C'est elle.
Ouais.
Et bosser en couple alors ?
Bah, en réalité, on n'est pas du tout sur le même lieu, puisqu'on a des bureaux dans le 11e qui sont les bureaux commerciaux et créatifs. La artistique plutôt.
On se voit jamais, c'est ça ?
Non, on se voit le soir et c'est très bien comme ça. Et puis du coup, elle travaille plus sur la branche de mon associé. Donc moi je m'occupe vraiment du labo, des équipes, du gâteau en lui-même.
Okay.
Voilà. Moi je fais la DA des gâteaux, elle fait la DA du reste.
Tu parlais des goûts pour les gâteaux industriels de tes enfants. Toi-même, t'as pas un petit péché mignon industriel ?
Si, plein, c'est une catastrophe.
Allez, vas-y.
Non mais tu sais...
Fais ton coming out des produits dégueulasses.
Alors les fingers.
Ah oui.
Après Haribo, moi généralement je suis un grand malade.
Ah
ouais, Haribo, c'est une catastrophe. Les schtroumpfs, les crocodiles, les trucs comme ça.
Ah ouais, les grosses merdes, quoi.
Ouais, tout ce qui est graisse de baleine, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Okay.
Mais ouais, donc ça, c'est les coca, les œufs, enfin la folie. Donc ça, c'est en plus moi qui prône le sans colorant et tout, c'est une catastrophe. Donc tu vois, tout le paradoxe du gars.
Ouais. Fast food, un peu ?
Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais attends, je suis...
En fait, il a une hygiène de vie dégueulasse.
Non, mais c'est...
Non, mais tu vis dans la vie réelle, quoi.
Ouais, bah complètement.
Et j'imagine que... Non, mais... Non,
bah, mes fils, par exemple, McDo, c'est leur...
Ah oui, d'accord.
McDo, là, je l'ai fait rêver, quoi.
Est-ce que t'as une phobie ?
Ouais.
C'est quoi ?
Les serpents. Tu vois, normalement, je voulais pas le dire parce que si un jour je fais Fort Boyard pour
X ou Y raison. On voulait te dire.
Ouais. Si je fais Fort Boyard pour X ou Y raison, j'ai appris qu'en fait, ils te demandent si t'as une phobie pour te foutre dedans.
Absolument.
Après. C'est bâtard. Donc, du coup, je voulais pas le dire parce que si un jour je suis amené à faire cette émission, puisqu'au bout d'un moment, ils vont racler les
gens.
Ils vont racler les gens.
Le fond de tiroir.
Donc, tu vois, je ferai tout pour.
Vous l'avez compris, la prod de Fort Boyard. Là, il y a clairement un appel du pied.
Je préfère sauter dans. Du fort que de faire ça. Ouais, les serpents, je peux pas.
Yann, il est l'heure de passer à la sauce piquante.
Le gars, il dit un truc et l'invité, il doit répondre un truc.
Alors c'est très simple, hein, c'est des questions cash, des réponses qui doivent être cash, assez courtes si tu peux. C'est parti, est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui ?
Je gagne bien ma vie.
C'est-à-dire ? Est-ce que tu payes trop d'impôts ?
On est dans un pays où, effectivement, on est bien taxé.
Selon toi, il y a quoi après la mort ?
Rien.
C'est quoi le fond d'écran de ton portable ?
Un de mes fils, je ne sais plus lequel.
Ah bah d'accord, et pourquoi ?
Bah ça tourne. Un coup c'est un coup c'est l'autre. Se met un peu, j'ai l'impression que ça se met...
Je suis pas net cette histoire. Tu votes pour quel parti politique ?
Je vote pas.
Pourquoi ?
Je me sens absolument pas représenté, en fait, dans le paysage politique français. Je me retrouve dans rien. Et alors surtout pas dans les extrêmes. Mais
tu votes pas blanc, tu votes pas, tu te déplaces pas.
Non, je perds pas mon temps en fait.
Si t'avais le pouvoir de faire disparaître un ingrédient de la planète, ça serait lequel ?
Le Nutella ?
Ah ouais ?
Ouais, je déteste.
Ça alors ?
Ouais, j'ai pas du tout ce truc.
Mais attends, tu n'aimes pas la pâte à tartiner au chocolat ou le Nutella ?
Le Nutella.
Ah.
J'en vends de la pâte à tartiner.
Bah alors ?
Bah, s'il n'y a plus de Nutella, j'en vendrai plus.
Oh, parce que, ah,
c'est purement... je plaisante. Non, je trouve que c'est un produit qui n'est pas tellement éthique et qui, voilà, et qui en plus engendre un excès de sucre, de gras, et puis en plus détruit la planète. Donc,
t'as déjà pris la drogue ?
Ouais.
Laquelle ?
Petite, douce.
T'as fumé des pétards ?
Cannabis.
Ok. T'en prends toujours ?
Rarement.
La dernière fois que t'as pleuré ?
L'enterrement de mon père.
Est-ce que tu as un regret dans la vie ?
Un regret dans la vie ? J'aurais aimé, je dis souvent, on me la pose souvent cette question et j'ai une réponse toute prête, et que je pense viscéralement évidemment, c'est que j'aurais aimé faire mes enfants plus tôt, parce que ça aurait voulu dire que j'aurais vécu avec eux plus longtemps.
Et t'as quel âge ?
J'ai 42 ans.
Bah, c'est pas spécialement vieux.
Oui, j'ai fait mes enfants à 36. Si je les avais fait à 26, j'aurais vécu 10 ans plus avec eux. Enfin, c'est bizarre de penser comme ça, mais ouais, si je les avais fait à 26, bah voilà, tu vois, c'est pas extensible. Donc j'aurais vécu 10 ans de plus avec mes enfants. Et en fait, je suis.
Mais tu vas vivre longtemps avec tes enfants quand même.
Oui, mais j'aurais pu vivre 10 ans de plus. Okay. C'est ce que je veux te dire. Tu vois, même si tu vis longtemps, 10 ans de plus, c'est pas rien.
C'est encore plus. Ouais.
Et je trouve que j'ai jamais été aussi heureux et angoissé que depuis que j'ai des enfants. Au fond de moi, il y a un amour spécial et le fameux amour inconditionnel qu'on nous décrit tant, voilà, qui me fait que je me dépasse, je suis un autre homme.
T'as des tatouages ?
Ouais.
Où ?
Les bras.
C'est quoi ?
Un renard d'un côté et le prénom des enfants de l'autre, tu vois.
Ok. Est-ce que t'es heureux ?
Dans l'ensemble, ouais, bien sûr. Bah, enfin... J'ai quand même de la chance. Donc si tu fais la balance, on se plaint, mais enfin, moi je vois autour de moi des gens tellement plus malheureux et avec des raisons de l'être. J'ai la santé, j'ai une famille, j'ai une femme super, je vis dans un endroit cool, matériellement tout est ok, sentimentalement tout est ok, je le mets pas forcément dans cet ordre-là, mais et professionnellement c'est ok aussi. Donc j'ai des amis fiables avec qui voilà, je voyage, j'ai pas, bien sûr que j'ai du stress, bien sûr que j'ai rien volé, mais non, je suis heureux.
Tu le seras peut-être un peu moins après la prochaine séquence. Balance ton mot.
Balance ton mot, le concept, vous allez voir, c'est très simple, mais un peu pupute.
Je te cite un nom,
ouais.
Tu me balances un mot.
Ouf.
Pierre Hermé.
Ah,
tu peux en citer deux ou trois si tu veux.
Bienveillant, générosité et patron. Pour moi, c'est le patron.
Cédric Grolet.
Ami, talent et superstar.
Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron.
Je pense compliqué, que cette réponse me convient.
Ouais, non, mais en plus, moi, je suis pas anti-Macron. Je suis pas du tout anti-Macron. Je suis pas pro-Macron, mais je suis pas anti-Macron. Moi, je nourris pas la haine qui peut. Voilà, il a des responsabilités dans un pays qui va mal, et on peut pas considérer que tout est de sa faute. En tout cas, moi, c'est pas mon état d'esprit. Trop facile de tirer sur l'ambiance.
Eric Kaiser.
Alors, copain, rouquin, ouais. Enfin, rouquin plutôt. Ouais. Donc ça, déjà, c'est...
Ouais, c'est important.
Ouais. Et, puis,
temps, ça, en plus.
Et puis, c'est un as du développement.
Christophe Michalak.
Copain, grand professionnel.
Cyril Lignac.
Copain.
Grand professionnel.
Non, c'est admirable ce qu'il fait, la façon dont il mène ses affaires et tout. Et puis, je trouve qu'il est bon partout, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ses restaurants, c'est malin, c'est bien... C'est bien ciblé, c'est bon. Et voilà, sa pâtisserie est bonne, tout ce qu'il fait est bon en fait.
On termine, trois derniers noms. Philippe Conticini.
Eh ben, c'est mon voisin à Colombe. On a nos labos qui sont vraiment situés côte à côte. On se voit peu. Voilà, Philippe, c'est un des monuments de la pâtisserie qui a apporté énormément, énormément de choses à ce métier. Donc évidemment, j'ai de l'admiration.
Nina Métayer,
pareil, c'est un de nos talents. un de nos talents plus jeune, évidemment. Elle est beaucoup plus jeune, c'est la nouvelle génération. Ouais. Elle mène bien sa barque. Elle est... Non, félicitations aussi. Hein, c'est...
Et de la nouvelle génération, dernier nom, Mercotte.
Mercotte, c'est ma copine. Je l'adore, elle prend sa retraite cette année.
Ouais.
Donc voilà, je lui souhaite une belle retraite, okay, à ma Mercotte.
Allez, on arrive doucement mais sûrement vers la fin de ce footcast et on va terminer avec les questions des abonnés.
Ah.
Virgile, qui me demande quel est ton mentor.
Les sources d'inspiration, j'en ai plein. Mon mentor, c'était peut-être un de mes chefs qui s'appelle Jean-François Fouché, qui est installé à Cherbourg et dont j'ai été le sous-chef pendant plusieurs années. Quelqu'un qui m'a porté et qui m'a aussi beaucoup aidé à développer mes cases créatives.
Alors, je te préviens, il y a des questions qui sont cash.
Bam.
Donc la prochaine, elle l'est.
Ah.
Donc c'est El Cachas. Pourquoi l'offre est-elle si pauvre dans tes boutiques ?
Alors, moi, je suis pas d'accord déjà. Je suis pas d'accord avec l'offre qui est pauvre.
Non, mais ce qu'elle veut dire, c'est qu'effectivement, il n'y a pas une vitrine avec 30 pâtisseries.
Ça s'explique par le fait qu'on est artisan déjà et qu'on fabrique tout à la main. Donc, si l'offre est large, il y a de fortes chances qu'elle soit sous-traitée.
Comment arrives-tu, c'est Sarah qui me demande, comment arrives-tu à garder la ligne avec tous ces desserts autour de toi ?
Non, je mets juste des t-shirts de plus en plus larges.
Voilà, technique. Il y a Hugo qui me demande pourquoi tes gâteaux sont si chers.
Alors, pareil, je ne trouve pas. Nous, on a une volonté de rester le plus accessible possible. Ouais. Évidemment, ouais, on travaille, comme je le dis depuis le début de ce podcast ou de ce vie. Comment tu dis ?
Oui, ce foodcast.
Ce foodcast. On travaille de manière artisanale avec des produits normaux, on va dire, ouais, pas transformés, ouais, des produits totalement. Transparent, c'est-à-dire que des produits éthiques. Et évidemment, tout ça a un coût. Il faut savoir que quand on a démarré, notre tarte citron, elle était à 4,80. 4,80 une tarte citron meringuée. Aujourd'hui, les matières premières ont plus de doublé. Hein.
Oui, bien sûr.
Et on n'a pas doublé nos prix pour longtemps. Donc, c'est juste le cours des matières premières qui influence évidemment nos produits.
Karim me demande... Tu penses quoi des concours télé, genre le meilleur pâtissier ?
Bah pour avoir participé à plusieurs épisodes, je serais quand même gonflé de dire que j'aime pas.
Est-ce que ça participe pas à créer une starification que tu dénonces par ailleurs sur le métier de pâtissier ?
Non, je trouve que ça répond surtout à un divertissement que les gens attendent, puisque c'est une émission qui a fait ses preuves et qui donc, par conséquent, est attendu, plaît aux gens, les divertit. Les vraies stars de cette émission, c'est Mercotte et Cyril. Mmh. Nous, on vient un peu crédibiliser le propos, oui, sur un épisode un petit peu... il n'y a pas de récurrence. Okay. Et puis, si c'était récurrent, je le ferais avec plaisir, d'ailleurs. Mais c'est pas... C'est deux choses. Qu'on nous starifie parce que... Je sais pas. En fait, la pâtisserie plaît énormément parce qu'on peut s'identifier, refaire à la maison. Il y a des émissions de bricolage sur la même chaîne et personne ne starifie les bricoleurs, tu vois.
Bah oui.
Donc c'est pareil. En fait, si tu veux, c'est pas... c'est la pâtisserie, la star, en fait. Tu vois, quelque part. C'est le fait de pouvoir pâtisser à la maison, de voir comment on fait les choses. Il y a tout un environnement autour du meilleur pâtissier. Il y a un château. C'est rigolo. Tu voyages un petit peu en regardant cette émission.
Petite question perso de Nabil. Est-ce que tu fais des pièces montées de mariage ?
Tout à fait. On en fait plein.
Ah ouais ?
Ouais.
Ah bah écoute, bah voilà, Nabil, écoute, si tu veux te...
Regarde sur notre site internet, Nabil. Tu as toute une proposition qui est faite sur un catalogue en ligne.
Voilà. Ça te coûtera un PEL, mais par contre, ça sera une super belle pièce montée. Non, je plaisante, mais voilà. Tu fais aussi de la réception.
Bien
et
sûr.
Du...
De plus en plus, d'ailleurs.
Okay. Allez, il est l'heure de se quitter, mais avant ça, je t'ai posé plein de questions.
Ça n'en finit plus.
Je t'ai posé plein de questions. Ouais. Il est l'heure pour toi de me poser une question. T'as le droit de me poser la question que tu veux.
Ah, alors attends. T'aurais dû me dire ça avant que je la prépare.
Et je suis obligé de répondre. Oui, mais non, je suis pas fou.
Donc, si j'ai bien compris, je suis le deuxième invité de ce format. Mm-hmm. Je suis extrêmement flatté parce que quand t'es un peu dans les premiers, ça veut dire que t'es...
T'aimes bien.
Mais je suis très curieux de savoir qui va être le troisième.
C'est une bien bonne question. J'ai beaucoup de gens que j'aimerais bien avoir ici.
C'est pas défini déjà ?
Bah non, c'est pas encore défini. Donc,
Dis-nous qui tu rêves d'interviewer ici alors.
Ah oui, c'est défini, autant pour moi.
Non, mais je change.
Ok.
Dis-nous.
Alors.
Quelle personne tu rêves d'interviewer ?
Ok.
Après moi, bien sûr.
C'est dur comme question, mais s'il y a une seule personne, mais... ça va, beaucoup de gens vont être déçus. Hein.
Ah ouais ?
Mais c'est parce que pour moi, c'est la personne qui m'a donné envie de faire ça, qui m'a donné envie, qui m'a passionné avec la façon dont il parlait de la gastronomie, de l'avoir mis à la radio, à la télé. J'ai une admiration considérable pour François-Régis Gaudry.
Ah.
Et j'aimerais bien le recevoir ici.
Je repense à tout à l'heure.
Alors, c'est très si vous avez déjà vu le précédent Foodcast avec Merwan, vous avez compris qu'il y avait
d'accord.
un avis différent. Ouais. Mais moi, en ce qui me concerne, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré.
Je partage ton avis. C'est quelqu'un de que j'apprécie énormément et que j'estime énormément.
Bon, donc voilà.
En tant qu'homme et aussi en tant que acteur.
Mais je sais que je serais très mauvais parce que quand tu admires énormément les gens, quand tu admires la personne que tu reçois, tu es très mauvais intervieweur.
Ouais.
Je sais pas comment tu vas le prendre en fait. Je me suis aperçu au moment de
et
dire
là,
cette phrase.
Tu t'es trouvé bon ou pas
Excellent.
Non, dis-moi, c'est peut-être
excellent. Que...
Ouais, ah, bah, super, ouais. Ça fait plaisir. Non,
mais voilà, tu sais très bien quand tu, je sais pas quand t'admires, mais c'est quand t'es fan. Moi, je suis vraiment,
je comprends très bien.
Oh là, c'est bon. Bon, allez, il est temps de terminer cette émission.
Je te le fais pas dire.
On a un petit rituel pour clôturer l'émission.
Aïe, qu'est-ce qui est encore arrivé?
C'est très simple. Tu as 30 secondes
pour dire du mal,
pour dire ce que tu veux et terminer. Ce Foodcast, comme tu l'entends, tu peux faire ta promo, tu peux faire autre chose, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je m'en vais, je te laisse tout seul.
Ok, très
merci.
Sympa comme concept, mais je
merci d'avoir été là. N'oubliez pas de liker la vidéo et de commenter dès maintenant et de vous abonner aussi si c'est pas encore fait. Et maintenant, la parole est à Yann Couvreur.
Je suis absolument pas prêt, mais on va essayer d'improviser. Alors déjà, merci d'avoir tenu jusque là avec toutes les méchancetés qu'il m'a dites. Écoutez, actualité, Salon du Chocolat bientôt, c'est quand que ça paraît? Ça paraît quand? Les gars, ça paraît quand le podcast? Retrouvez-moi au Salon du Chocolat si l'épisode paraît, je pense que ça va être bientôt, donc fin octobre, début novembre. Voilà, j'y serai tous les jours. C'est pas sûr?
Non, pas sûr.
Merde. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Plein de nouveautés sur le plan viennoiserie, pâtisserie. Un nouveau livre, je l'ai dit tout à l'heure, qui va s'appeler Rustique, les desserts de maison. Voilà, interdiction d'utiliser la poche à douille, tout est fait à la cuillère, à la spatule, avec des casseroles et beaucoup d'amour. Voilà, je vous embrasse, je pense que j'ai dépassé les 30 secondes. Bye bye, c'était Yann.